voit les premiers gros morceaux de glaçons. Et au loin, la banquise toute disloquée, donc le pack de glace, quoi.
Communication de la passerelle, nous venons de franchir le cercle polaire antarctique.
On vient de croiser une baleine, on a vu nos premiers manchots empereurs, nos premiers phoques. C'est, sans parler des oiseaux, c'est comme quelque chose d'assez extraordinaire, quoi.
Enfin, il n'y a rien de plus qui ressemble à un iceberg qu'à un autre iceberg. Mais c'est grandiose, quoi, de voir tout ça, tous ces manchots là partout, c'est juste incroyable.
Quand même, en voyant ça, ça doit quand même aider à vouloir défendre la planète, quoi.
Je sais pas, je dirais que j'ai la tête vide là, je suis juste super calme, puis super apaisé. Je sais pas, je me sens tout petit et j'ai un peu froid aux mains.
Donc voilà, on est là sur l'île du Lion, et on va aller sur l'île des Pétrels sur laquelle il y a la base de Dumont d'Urville. Bienvenue, on est content de vous voir.
Un été en Antarctique. Nicolas Martin, Yvon Croisier. Troisième épisode. Terre à l'horizon.
Samedi 8 décembre, 6h du matin. La nuit a été courte et claire, il ne fait presque plus obscur. Même à 3h du matin, c'est une lumière grise, entre chien et loup, un dégradé de gris et de blanc coupé par le bleu profond, presque noir de la mer. Le froid est devenu vif et tous les expéditionnaires à destination de la base Dumont d'Urville en Terre Adélie sont excités à l'idée de rentrer dans les glaces. Un premier choc contre la coque. Un choc sourd qui résonne dans tout le bateau, puis un autre. Les portes des cabines s'ouvrent, les pas se précipitent dans les coursives, dans les escaliers. Tout le monde sur le pont, l'astrolabe entre dans les glaces. Alain, racontez-moi ce que vous voyez.
Pas mal de choses blanches sur l'avant. Donc oui, un ensemble effectivement de plaques de glace de mer.
C'est la première fois que vous voyez de la banquise comme ça, des plaques de glace?
Oui, complètement, oui. Ouais, c'est tout nouveau et c'est vraiment impressionnant. Ah ben, je me dis qu'on y est vraiment maintenant. Hein. Ça fait des mois, voire pratiquement un an qu'on l'attend, qu'on se prépare. Et je me dis que maintenant on y est vraiment. Oui. Et c'est un aboutissement. On va mettre en place la 69e mission en Terre Adélie, donc c'est des choses qui sont bien rodées maintenant. Mais oui, l'envie d'être dans le dur et dans le cœur du sujet bientôt, oui.
Bonjour, commandant.
Bonjour.
Que voit-on depuis la passerelle en ce moment?
Il est 7h05 du matin, et donc voilà, c'est le début de la glace. La moyenne d'âge va descendre à moins de 10 ans. Et il y a toujours une grande excitation, beaucoup d'enthousiasme.
Vous avez réduit notablement la vitesse du navire?
Oui, là on est réduit à 10 nœuds, on était à 14 nœuds pendant le transit. Et là à l'approche des glaces, on réduit à 10 nœuds parce qu'on risque de rencontrer des petits morceaux de glace qu'on appelle les growlers. Et à 14 nœuds, l'impact sur la coque est trop fort. Donc voilà, on réduit là et puis on va rentrer à peu près à 6-7 nœuds dans la première glace.
Pierrick.
Bah, je viens de me réveiller et là du coup je me réveille doucement, mais c'est magnifique, ça me rappelle les souvenirs de l'an passé. C'est toujours aussi puissant, toujours aussi magnifique après 5 jours de mer comme on l'entend d'habitude. Là voilà, il y a de la glace partout, des plaques immenses qu'il faudra casser pour pouvoir passer. Avec les premières espèces aussi qu'on n'avait pas vues avant, le pétrel antarctique, le damier du Cap.
Il y a un pétrel des neiges, voilà, il est un peu haut, là-bas, devant le pétrel antarctique.
Ah oui, juste là.
Ouais.
Là, il est...
Voilà. Ouais. La taille d'une colombe, entièrement blanc. Et lui, c'est un oiseau qui est strictement associé à la glace. Son nom latin, c'est Pagophila, ça veut dire celui qui aime la glace. Moi, c'est le truc... qui m'a fait venir à l'ornithologie, c'est les, l'aspect esthétique des oiseaux. Et lui, il est beau, donc c'est toujours un plaisir de le revoir. On voit des manchots là-bas. 5 adélies.
Ah oui.
Comment dire? Dans la partie la plus serrée de la glace, là.
À 22h.
Ouais, voilà, à 22h, ouais. On voit...
On voit 5 silhouettes qui se détachent, effectivement.
Ça fait particulièrement d'une passion. Je ne me verrai pas faire autre chose. C'est quelque chose dont j'ai besoin pour me ressourcer, tant du point de vue scientifique que du point de vue personnel. J'aime être dans des endroits un peu... comment dirais-je, éloigné des activités humaines, ou en tout cas moins impacté, même si on sait que ça l'est. Puis aussi parce que je trouve qu'il y a un côté esthétique qui me plaît, moi, dans les oiseaux marins, dans les paysages. Je pense que c'est important. On n'est pas assez contemplatif désormais. Ça fait du bien d'être contemplatif.
D'abord quelques petits glaçons épars, puis au loin, les premiers icebergs. La glace devient de plus en plus dense, de plus en plus resserrée autour de la coque du bateau. Il est 8h, tout l'équipage est sur le pont. On ne voit plus que du blanc à perte de vue. L'Antarctique commence à se dévoiler. Jérôme Fournier, biologiste marin.
Et ben là, on est en train de traverser une large bande de packs relativement dense, donc c'est de la glace de mer à l'infini devant nous. Alors des blocs qui sont plus ou moins larges, on dirait une vingtaine, trentaine de mètres, certains un petit peu plus petits, le bateau qui est en train de passer cette bande de glace épaisse d'un mètre à deux. Voilà, donc ça frotte contre la coque. Il y a des à-coups puisque le bateau tend à taper dans la glace. Et puis on voit surtout tous les futurs hivernants là, qui sont en train de regarder presque la larme à l'œil en fait ce spectacle, à faire des photos. D'un glaçon, de deux glaçons, de trois glaçons, tous plus beaux les uns que les autres. Et puis ce spectacle aussi d'oiseaux marins qui survolent ce pack à la recherche de nourriture. Les premiers manchots qu'on vient de voir un peu plus loin là. Il y a quand même une grande impression de calme. Hein. Personnellement, ça me donne beaucoup de sensations de sérénité, de paix. Je pense que la plupart des gens, c'est ce qu'ils ressentent. Hein.
Il y a un phoque là, juste à côté.
C'est un védèle.
C'est ça, un phoque de védèle, c'est exactement ça. C'est l'espèce qui vit en fait à Dumont-d'Urville. Il y a une belle colonie autour de la base. Et puis c'est Fulmar Antarctique, c'est Dagui du Cap, c'est Pétrel Antarctique, Océanide de Wilson, Prion, des dizaines d'espèces différentes. Et puis ces couleurs, ce blanc qui n'est pas vraiment blanc, qui passe du bleu turquoise avec les reflets de l'eau là.
C'est vraiment le top quoi.
Qu'est-ce qu'on voit là, Christophe?
Alors, on voit un petit adélie à qui on fait peur et du coup qui court sur son caillou, enfin l'équivalent d'un caillou qui est un morceau de glace.
Moi je trouve ça un peu touchant, ce petit pingouin qui est tout seul au milieu de la banquise, qui est vraisemblablement terrifié par le boucan et le raffut que fait le navire.
Mais par contre, cela dit, une réflexion, enfin ce qui me fait marrer, c'est que j'ai lu Les Racines du ciel de Gary. Et en fait, Morel, le personnage, est fasciné par la faune et la flore africaine, qu'il voit comme un symbole de l'espace à préserver pour que l'humanité ne court pas à sa perte. Et en fait, c'est à peu près ce que je ressens de l'Antarctique, en espérant que ça dure et que ça perdure pendant encore longtemps.
On entendait dès ce matin, là, Jérôme, par exemple, qui parlait avec Olivier, qui est ornithologue, en disant « c'est fini ».
Bah, je suis pas dans le même domaine qu'eux, mais justement, c'est complémentaire. Et nous, moi, je suis plus dans la climatologie, la glaciologie. C'est difficile d'exprimer ça publiquement, mais c'est vrai que... Enfin, en fait, l'effort à faire pour stabiliser le dégagement de CO2, etc., est tellement énorme et ne semble d'être tellement pas à la priorité numéro une de n'importe quel gouvernement ou politique, ou même de la civilisation en général. Effectivement, ça semble être un peu fini. Enfin, un peu fini, dans le sens où il faut peut-être... arrêter de se dire qu'on peut changer les choses et juste Regardez ce qu'on est en train de faire, en profiter encore un peu. L'Antarctique ayant de particulier que c'est quand même bien protégé par un climat très spécial, contrairement au Groenland qui on sait fond depuis 10 ans. Le truc étant qu'il y a une circulation et océanique et atmosphérique qui isole un peu l'Antarctique du reste de la Terre, donc elle encaisse beaucoup plus les gros changements qu'on provoque, nous, par notre activité humaine. Au moins, en venant ici, on a l'impression de venir dans le seul espace, peut-être, qui va être préservé jusqu'au bout de nos bêtises.
Et en même temps, il y a quoi, 5 minutes, vous me disiez quoi à propos de la banquise ?
Qu'on avait peur de la faire fondre et de plus pouvoir assister à ce spectacle assez fou du passage du cercle polaire et sur l'Astrolabe et de voir cette banquise qui s'étend. Déjà aujourd'hui, cette année, elle est particulièrement disloquée, particulièrement mince, mais je sais pas si c'est uniquement du réchauffement climatique ou si c'est, enfin je veux dire, si c'est une question de température aussi, de circulation. De toute façon, c'est toujours très dur de décorréler ce qui est du réchauffement, de la variabilité naturelle. Toujours est-il qu'on sait qu'on va avoir un impact dessus à moyen terme au moins, donc effectivement on peut se dire que c'est la dernière fois, surtout dans mon cas où je sais pas si je reviendrai encore une fois après.
Vous me disiez mot pour mot, regarde la banquise, dans 20 ans il n'y a plus rien.
C'est vrai que j'ai dit ça, regarde la banquise, dans 20 ans il n'y a plus rien. Mais c'est quand même fou comme spectacle. Bah, typiquement, c'est parti des choses indescriptibles. Bah, la sensation de pénétrer dans les glaces. Pff. Donc c'est toujours le paradoxe entre est-ce qu'on y va, au bout d'un moment on débranche du fuel pour y aller, etc. Et en même temps, c'est en y allant, en essayant de montrer ce qui se passe à certains endroits, qu'on peut sensibiliser les gens. Donc il y a un paradoxe entre est-ce qu'on y va parce qu'on est scientifique, et du coup est-ce qu'on fait faire des visites aussi, est-ce qu'il y a des croisières touristiques plus ou moins, bon très chères, donc de toute façon réservées à une élite, mais... Finalement, on a besoin de cette communication de gens qui trouvent ça fabuleux pour expliquer qu'il faut le préserver, quoi. Il y a peu de relief. Là, il n'y a même pas vraiment d'animaux, mais on sent... Ouais, c'est un mot qui revient souvent, c'est l'immensité.
Guillaume Herman.
Bah, c'est un petit peu froid. Non, bah écoute, je sais pas, c'est... Ouais, bah je pense qu'il n'y a rien qui te prépare à ça, quoi. T'as beau avoir vu les photos, une fois que t'es là, que tu te pèles le cul, qu'il y a des manchots et puis des baleines, c'est plus la même chose. Et puis, bah, je sais pas, je suis un peu sans voix, quoi. Parce qu'avant, c'était juste de l'océan, et puis là, d'un coup, l'océan, c'est plus que de la glace à perte de vue.
Sur la passerelle, nous venons de franchir le cercle polaire antarctique. Je rappelle qu'à la coopérative, vous pouvez obtenir un magnifique diplôme signé de la main du commandant. Fin de communication.
Commandant, je vais vous embêter. Racontez-moi un peu où on est, qu'est-ce qu'on voit.
Alors, nous sommes le 9 décembre. Il est 9h10 du matin. Cette nuit, on a passé une bande un petit peu épaisse de Pâques, avec des plaques d'à peu près 2 à 3 mètres d'épaisseur. Ça a pas mal tapé, vous avez dû entendre. Et puis ce matin, on est en attente au large de Dumont-d'Urville. Voilà, on essaie de se rapprocher petit à petit de la station. Le problème, c'est qu'on a une tempête de neige avec des baisses de visibilité.
Qu'est-ce qui empêche concrètement d'approcher ? C'est le vent, c'est la glace ?
C'est surtout les plaques de glace épaisses. Quand on passe dans les plaques de glace, en fait, on les casse. Et des morceaux qui peuvent se glisser sous la coque dans les hélices. C'est ça qui fait les vibrations qu'on a entendues hier, parfois pendant plusieurs minutes. Voilà, donc ça c'est le danger principal.
Normalement, ça devrait nous permettre de débarquer aujourd'hui, d'arriver vers quelle heure à la station, ou est-ce qu'il faut repousser le débarquement à votre avis ?
Alors en fait, le problème c'est l'entrée dans l'anse du Lion, qui est très étroite avec des hauts fonds, et donc on va s'engager dans cet espace restreint uniquement avec un vent faible, parce que le bateau est assez haut sur l'eau et il prend vite le vent. Donc moi je suis obligé, quand je rentre dans l'anse du Lion, d'aller très doucement. Et donc c'est une manœuvre que je fais qu'avec du vent faible.
Donc on va attendre que le vent baisse en dessous de 15 nœuds. Et à partir de ce moment-là, on décidera de s'engager pour aller s'accoster. On est en lien radio déjà avec Dumont d'Urville. Et ils nous indiqueront la diminution du vent au fur et à mesure de la journée. Quoi. On peut discuter avec eux si on veut par la VHF. C'est toujours les premiers contacts, c'est avec la VHF, c'est toujours assez émouvant d'ailleurs.
Et du coup, le navire, vous allez le stationner à quel endroit sur cette carte ?
Alors voilà, là je zoome. Donc on a l'île des Pétrels, ici, et puis la piste du Lion, un peu au nord-est. Et on va se faufiler ici, dans ce bras de mer qui rentre, avec un petit enrochement qui a été pratiqué ici. Et on va s'accoster ici, tout au fond.
Ah, et donc c'est vraiment au chausse-pied, quoi ?
Ah là, c'est vraiment du chausse-pied, c'est du... Il y a juste la place pour le bateau, quoi, pas plus. Hein. Oui. Voilà, donc il faut se faufiler ici, là, faire un zigzag, gauche, droite, gauche, et puis ensuite on vient s'accoster ici.
Appel de tout le personnel Marine Nationale en passerelle.
Donc on va aller à DDU, je vous rappelle de nouveau les consignes permanentes qui existent pour DDU. Il y a tout ce qui concerne donc, la biosécurité et les règles d'approche des petits mammifères qui nous accompagnent. À partir de ce soir, donc on accoste à 16h, pas de mouvement de débarquement aujourd'hui. Les prévisions météo de demain ne sont pas forcément excellentes. On verra ce qu'on pourra faire ou non en termes de déchargement. Pour ce qui est du déchargement ce soir, l'impératif c'est sortir les sacs postaux. On va peut-être utiliser les deux cache-palettes vides qui sont sur le deck pour mettre d'une part les sacs postaux et dans l'autre les bagages des expéditionnaires. De façon à ce qu'on les prenne à la grue et qu'on les mette directement dans le John Deere. Ça nous fera gagner du temps et puis sera beaucoup moins casse-gueule au niveau du ponton du débarquement. Le débarquement, donc les expéditionnaires nous quittent quasiment tous ce soir, dès ce soir. Il y a pas mal de déchargements. En gros, il y a plus de 150 colis à décharger à la grue, donc ça va prendre un certain temps. J'estime au moins à 3 jours le déchargement, plus 315 mètres cubes de sable qu'on peut faire concomitamment. Voilà, ça va nous prendre du temps. Il va falloir encore faire pas mal de choses, sachant que la météo pour la semaine n'est pas optimal sur toute la durée. C'est-à-dire qu'on va avoir des jours où il va falloir certainement quitter l'Anse du Lion pour aller se mettre à l'abri, le temps de retrouver une période propice aux opérations de déchargement, puis ensuite de rechargement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Donc je prendrai la manœuvre ici, juste avant l'entrée. Voilà. Je resterai, je pense, au centre, hein, les manœuvres au centre. Et puis je passerai sur bâbord ici en finale.
Dimanche 9 décembre, la base du Mont d'Urville se dessine au large. Les futurs hivernants sont littéralement électriques. Tout le monde se réunit dans le salon passager pour préparer le débarquement sous la houlette de Gaël Célin de l'IPEV, l'Institut Polémique Victor.
Donc on va débarquer très bientôt sur Dumont d'Urville. Donc ce que je... Le bateau est à la manœuvre. Juste un petit point pour comment ça va se passer sur le débarquement. Là, on a de la chance, on va débarquer directement au Lion, donc ça va être relativement simple au niveau organisation. Pas de déchargement aujourd'hui, sinon nos affaires personnelles et également les sacs postaux. Vous laissez pour l'instant vos affaires dans vos chambres. Vous préparez juste un petit sac à dos parce qu'on va rejoindre la base à pied. Il a neigé, donc préparez-vous juste un petit, les petites choses. Et les sacs bagages vont être ramenés ensuite avec les véhicules. D'accord ? Et on va rejoindre donc nos futurs logements à la suite. D'accord ? Bon, bah, à tout à l'heure.
Qu'est-ce qu'on voit là, Christophe ?
Là, ce qu'on voit, c'est la piste du Lion. Donc, on appelle ça la piste du Lion. C'est censé avoir été une piste. Enfin, ça a été fait pour être une piste d'atterrissage, mais qui n'a jamais été utilisée parce que trop près de la Manchotière. Et donc, c'est là où on va accoster. Donc, a priori, il y a tous les techniques qui nous attendent, bien chaleureusement. On va se faire. Voilà, ça va être la fête, quoi.
L'atterrissage du Lion. C'est à cause de la Manchotière que ça n'a pas été utilisé,
vrai, en fait.
Moi, je crois que c'est parce que quand il y a eu une tempête, il y a un bout de la piste qui a disparu. Il leur manquait je ne sais plus combien de mètres pour que ça soit utilisable. Ouais,
ouais, donc ça confirme ce que je pense. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une histoire qu'on te raconte en Antarctique, il faut attendre 3-4 versions pour être sûr de connaître la véritable. Ce qu'on m'a dit, mais peut-être que Olivier pourra nous le confirmer parce qu'il est ornitho, C'est qu'ils ont construit une piste parce qu'ils voulaient avoir une vraie piste d'avion qui soit pas à Prud'homme, donc avec l'hélico et tout à chaque fois, donc une vraie question logistique. Et en fait, à un moment, Greenpeace et tout, là, on se sent un peu tombé dessus, genre, mais les mecs, il y a la manche au tir juste derrière, et si à chaque fois qu'il va y avoir un avion qui décolle ou qui atterrit, vous allez perturber les manchots. Parce qu'il y a la manche au tir empereur qui est quand même juste derrière. Je crois que c'est un rapport avec ça. Mais...
Ils ont cassé plusieurs îles pour faire cette piste du Lion. Ils ont dynamité, ça a été un boulot de je sais pas combien d'années, un coup de tractopelle. Ouais, ouais. Ça fait une belle piste d'entraînement pour les mecs qui veulent courir l'hiver.
Qu'est-ce qu'on voit, Olivier ?
On voit la base, on devine la colonie de manchots à Delhi, qui est conséquente.
Sur la droite, hein, là,
sur,
juste
sur la droite, oui. En fait, on voit une passerelle, où on voit oui. Des gens là qui sont en train de descendre. Et le bâtiment bleu, là, oui. Qui est à leur droite, là, c'est le bâtiment Biomar. C'est là que sont les scientifiques qui travaillent en biologie. Et au pied de ça, il y a la colonie de manchots à Delhi. Qui est
oui. Donc on distingue très bien là. Voilà.
Là on voit un squat qui s'envole. C'est le prédateur des poussins et des œufs d'Adélie.
Et juste en face, à la proue du bateau, là, juste oui.
Mais on voit un bon groupe de manchots empereurs, oui, exact.
Et on touche terre là dans quelques minutes là.
Alors Charles, ça fait comment, ce premier contact avec la base du Mont d'Urville ?
C'est assez exceptionnel. C'est vraiment impressionnant ouais, là, d'arriver là sur les photos qu'on a vues pendant des mois. Et là, maintenant, on y est vraiment. Voir les manchots qui sont au bord. Et les hivernants aussi. Une espèce rare. On ne compte que 22 spécimens par an.
Là, à quelques mètres de nous, ils sont tous venus. Les anciens hivernants, ceux pour qui l'aventure touche à sa fin. Les estivants aussi, toute la population de la base est là, prête à accueillir leurs successeurs. Les nouveaux venus comme les anciens, la famille est bientôt réunie.
Salut Jacques !
Vous reconnaissez les gens qui nous attendent là ?
Ah bah oui, bien sûr, oui.
Il y a qui ?
Ah bah écoute, il y a les ornithos, il y a les informaticiens, il y a Jacques le médecin, il y a tous les copains quoi. Qu'on a laissé il y a un an, on les retrouve. Jérémy qui est là-bas, Anthony qui était là-bas, etc. Voilà, tous les copains.
Content d'arriver ?
Bah ouais, bien sûr. Après une semaine.
Bonjour.
Attends,
bonjour. Salut.
Alors GG.
Soyez bienvenus à Dumont d'Urville. Il est prévu qu'on remonte ensemble à pied jusqu'à la base et vos bagages vont transiter pendant ce temps-là en véhicule parce qu'avec les conditions qu'il y a, on n'était pas tout à fait sûr que les véhicules pouvaient remonter tout le monde. Donc voilà, on va vous guider. Pas de grosses précautions particulières. On est là sur l'île du Lion et on va aller sur l'île des Pétrels sur laquelle il y a la base de Dumont d'Urville. Juste contourner comme il faut le bord banquise et puis voilà, on va vous guider. Bienvenue, on est content de vous voir.
Non, merci. T'as pas trop maigri, t'es...
Ah non, j'ai pas trop maigri, non.
Salut.
Salut.
Je suis Nicolas. Moi, je suis France Culture.
Ok, salut France Culture. Enchanté, ton prénom, c'est...
Douglas.
Salut Douglas.
Content d'arriver, content de vous voir, en tout cas.
Ouais,
bah,
nous aussi, ouais.
Ah, moi aussi.
Et toi, t'es chercheur ?
Ouais, je travaille sur les manchots, ouais.
D'accord.
Ornithologue, manchologue.
Mancholog.
Mancholog, on dit, ouais.
C'est l'autre comité d'accueil, là, juste à
ouais,
côté.
Ouais, voilà, ouais, ouais. Ouais, ils sont moins cool que nous, ceux-là. Hein.
Ah ouais, c'est des manchots à Delhi, ça.
Ouais, donc là, c'est des manchots à Delhi. Donc t'en as qui partent en mer, d'autres qui reviennent. Tous ceux que tu vois monter, là, c'est sans doute... ils rejoignent leur colonie, leur nid, pour prendre la relève de leur partenaire. Et là, c'est des femelles qui reviennent, surtout en ce moment. Et c'est les mâles qui sont sur le nid. Et voilà, donc les Adélie, eux, ils investissent surtout les cailloux. Et les empereurs, ils sont surtout... voilà, tu les vois là-bas. Les empereurs, ils sont sur la banquise directement.
Ah oui, ok, là-bas.
Bon, là, y a un temps de merde, donc on voit pas bien, mais il y a le glacier de l'Astrolabe qui est juste là, enfin, tout là derrière. On verra mieux demain. Demain, il y a une bonne météo. Et en plus, c'est de la neige fraîche, là, c'est trop cool. C'est trop bien de faire... bataille de boule de neige, tout ça.
Là, parce qu'on est en train donc de passer exactement au-dessus sur une petite passerelle sur des manchots qui sont en train de couver, quoi.
Ouais, juste en dessous de nous.
Il y a combien d'individus là ?
Alors là, il y a environ 200 couples.
Ils sont complètement habitués, familiarisés à la présence de l'homme ?
Disons que la base, elle est installée chez eux quand même. Toute la base, elle est installée sur, sur les cailloux. Donc ils nous voient tous tous les jours, donc ils sont habitués à ce qu'on passe sur les passerelles, etc. T'as vu, il y a même des adélies qui nichent en dessous des passerelles et qui arrivent à se reproduire dessous, quoi. Donc ils sont plus ou moins habitués. Par contre, si tu t'approches trop près, bah, tu vas produire beaucoup de stress et puis ils vont essayer de se défendre, quoi. Là, la nuit, elle était rouge pour eux parce que il a neigé toute la nuit. Depuis hier soir, il neige. Là, ça s'est un peu calmé, mais ce matin, quand on est venu voir les colonies, t'en as qui sont tellement enneigés que t'as juste un petit bout du bec qui dépasse de la neige, soit t'as même, ils sont complètement recouverts, quoi.
Ouais.
Et donc dans ces conditions-là, ils doivent quand même continuer à maintenir leurs œufs au chaud. Ouais. Et c'est compliqué pour eux de continuer à couver leurs œufs, quoi.
Et les œufs là, ils éclosent vers quelle période ?
Bah c'est mi-décembre là, donc voilà, tu vois un œuf.
Où ça ? Ah oui, juste en dessous.
Ouais. Et donc les adélies, ils ont eu un peu une particularité par rapport à d'autres manchots, c'est qu'ils ont deux œufs. Donc là, le deuxième, il est bien sous la poche, ouais. Au fond. Et...
Ok.
T'as ton numéro de chambre ?
Toi, t'es avec Olivier.
Ou pas ?
Donc, chambre numéro 2, c'est ici. Ok. La fenêtre donne sur une colonie de manchots qui est juste là, à quelques mètres. Il y a des manchots partout, en fait. On est vraiment au milieu des colonies. Et c'est complètement dingue.
Demain, à la découverte de la base de l'Antarctique, de ses dangers et de ses merveilles. Un été en Antarctique, un reportage de Nicolas Martin réalisé par Yvon Croisier, avec Jacques Bazin, Claire Valentin, Christophe Leroy dos Santos, Alain Quivoron, Gaël Célin, Gaëtan Hems, Bruno et Jérôme Fournier. À suivre.